Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Samuel Bernard, Marguerite Caton, Maïlys André, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Kevin Boisseau. Troisième volet de notre série consacrée au Royaume-Uni, après avoir évoqué les bouleversements, les désordres provoqués par le Brexit dans les camps conservateurs et travaillistes, après nous être penchés sur les enjeux économiques liés au Brexit, place aux enjeux sociaux et sociétaux, fractures sociales et territoriales, le risque de la désunion, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
À quoi bon accueillir autant de gens chez nous si on n'a pas assez de logements, pas assez de médecins, ni d'hôpitaux?
Ils ont apporté quelque chose de nouveau au Royaume-Uni que l'on ne connaissait pas avant, comme par exemple l'explosion de la criminalité.
Nous pouvons maintenant dire que la décision prise par notre pays il y a 43 ans d'adhérer au marché commun a été révoquée. Nous allons quitter l'Union européenne.
Vous en France ou en Allemagne, vous ne voyez pas tout ce qui se passe ici. Soyez réaliste, j'ai seulement 500 euros de retraite. Et tous les immigrés qui viennent ici, ils touchent plus d'aide que moi.
J'étais dans un bus et je parlais au téléphone avec ma mère en polonais. Et quelqu'un a commencé à me crier. Rentre chez toi, parle notre langue. Le Brexit aura ta peau.
Le rejet de l'immigration, l'un des moteurs du Brexit, même si derrière, nombreuses sont les crises. En juin 2016, l'analyse des résultats du référendum sur le Brexit révélait les nombreuses fractures qui minent la société britannique. En effet, la sociologie et la géographie électorale de ce vote avaient fait apparaître les différences entre classe populaire et élite économique, entre métropoles connectées et territoires touchés par la désindustrialisation, mais aussi fractures entre les différentes nations, Angleterre, Écosse, Irlande du Nord, Pays de Galles, mais aussi entre classes blanches et minorités ethniques issues de l'immigration. Bref, c'est tout le vivre ensemble britannique qui montrait là ses limites. C'est le fameux modèle multiculturel britannique fondé sur la reconnaissance et le respect de la diversité ethno-culturelle qui semblait à bout de souffle. Alors comment comprendre cette crise du vivre ensemble? Quels en furent les moteurs économiques, sociaux, politiques, culturels, identitaires? Et sur quoi s'appuyer pour refaire société une fois acté le divorce avec l'Union européenne? Comment répondre à une demande de contrôle de l'immigration et une réaffirmation d'une certaine identité britannique sans totalement tourner le dos à la tradition d'accueil et d'intégration? Pour évoquer ces questions, nous avons invité ce matin Olivier Estève. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin en duplex de Lille. Vous êtes professeur à l'Université de Lille. On va revenir d'abord sur ce Brexit, évidemment, sur ce vote du Brexit au Royaume-Uni. Ce référendum a fait l'objet d'énormément d'analyses politiques. Il y a eu un véritable décortiquage de ce vote pour essayer de comprendre les dynamiques sous-tendues par ce choix de quitter l'Union européenne. Est-ce qu'à l'époque, on a pris conscience de l'état de fracture de la société britannique? Est-ce que ça a été un véritable choc? Ou est-ce que finalement, tout cela a été un peu masqué par cette question de l'immigration, cannibalisé quasiment par cette question de l'immigration, mais que finalement les problèmes internes de cohésion sociale et sociétale sont passés au second plan?
J'ai le sentiment que effectivement la question de l'immigration a été au centre à la fois de la campagne et puis des analyses qui ont été fournies sur les résultats eux-mêmes, mais en même temps corrélée donc à cette analyse par le biais de l'immigration, on a eu quand même quantité d'analyses, d'études qui ont été fournies sur les fractures territoriales au sein des quatre nations du Royaume-Uni et puis d'autre part les fractures apparaissant elle-même entre les quatre nations donc du Royaume-Uni, à savoir l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Donc on a eu vraiment les deux, me semble-t-il.
Au-delà de la question de l'immigration et du rejet de l'Europe, ce qui était dénoncé dans ce vote, c'est aussi la question des inégalités qui traversent le pays, avec des classes populaires et moyennes qui globalement se sentaient de plus en plus exposées au déclassement. Mais est-ce que la géographie électorale confirme cette hypothèse? Est-ce que le vote Leave recoupe celui de la pauvreté, alors réelle ou ressentie, et de l'exclusion? Est-ce qu'il faut un peu nuancer les choses?
Je suis pas à proprement parler spécialiste de ces questions-là dans les détails, mais de façon assez générale, il est clair que si on prend par exemple les 32 bourgs donc de ce qu'on appelle le Grand Londres, qui correspondrait peu ou prou enfin l'équivalent finalement de l'Île-de-France pour Paris. Les 5 bourgs, donc parmi les 32 du Grand Londres qui ont voté pour le Leave, se trouvent être également des bourgs où donc domine démographiquement donc une certaine classe ouvrière blanche ou classe ouvrière issue de l'immigration. Donc c'est assez net. Et d'autre part, si on regarde les résultats pour des villes sinistrées donc de l'est de l'Angleterre et aussi du nord-est de l'Angleterre, les résultats sont aussi assez éloquents.
Vous parlez de cette classe ouvrière blanche. On sait effectivement cette classe qui a subi la désindustrialisation, qui se sent comme une victime collatérale de la mondialisation et ce qu'elle est. Elle a majoritairement voté pour la sortie de l'Union européenne. Mais qu'en est-il pour les minorités ethniques? Les origines ethniques étaient-elles un facteur discriminant pour ce référendum?
Alors, les études qui ont été fournies après donc le vote sont assez éloquentes aussi à cet égard. C'est-à-dire que, grosso modo, on a estimé que les minorités ethniques avaient voté pour un tiers d'entre eux pour le Leave, pour la sortie de l'Union européenne. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a assisté en fait à des phénomènes de rejet de l'Union européenne par des personnes qui sont, par exemple, d'origine indienne du Punjab ou d'origine pakistanaise et qui, grosso modo, ont tenu un discours qui était finalement assez proche de celui des classes ouvrières blanches, en disant par exemple, voilà, nous on en a marre que les Polonais viennent nous prendre notre travail, ou alors à cause des Polonais ou à cause des Est-Européens ou des personnes d'Europe centrale, notre situation sur le marché du travail se trouve encore plus précarisée. Donc on a eu en fait affaire à des discours qui normalement on associe finalement à ces classes ouvrières blanches.
Oui, et puis par ailleurs, on avait aussi un discours du rejet de l'Europe qui s'appuyait aussi sur des considérations ethniques et raciales, avec cette idée que finalement l'Europe serait un club de blancs, je mets ça entre guillemets, mais c'est une idée qui a été avancée par un certain nombre de personnes et pas une communauté de valeurs.
Oui, alors bon, d'une certaine manière, on peut aussi considérer que l'explication donc de ce rejet de l'Europe comme étant une sorte de club blanc occidental chrétien, la responsabilité aussi incombe d'une certaine manière aussi aux immigrés est européens ou centre européens eux-mêmes, puisque c'est un fait assez connu que sur le marché du travail, par exemple, les Polonais ont eu tendance, par exemple, à dire aux employeurs potentiels, voilà, recrutez-nous et non pas, je sais pas moi, des Syriens ou des Palestiniens ou des Pakistanais, puisque nous sommes blancs, nous sommes chrétiens, sous-entendu nous ne sommes pas musulmans, et en plus nous sommes légaux. À un moment donné où effectivement on a assisté à une recrudescence, à une poussée donc du nombre de d'enquêtes de vérifications donc qui étaient faites par l'État autour de la question de l'emploi illégal, un certain nombre d'employeurs ont préféré justement employer des Polonais plutôt que des illégaux venant de Somalie ou de Syrie. Et donc, de ce fait, effectivement, les Polonais, notamment, en ont profité pour se présenter comme les personnes qui sont vraiment idoines pour être recrutées sur le marché du travail.
Oui, et puis il faut dire quand même que s'il y a effectivement des minorités ethniques qui ont voté pour le départ, beaucoup ont voté pour le maintien. Si on prend noires, par exemple, 70% des personnes qui se disent noires ont voté pour rester à l'intérieur de l'Union européenne. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a des fractures à l'intérieur même des minorités ethniques.
Alors, tout à fait. Alors, d'abord préciser pour les auditeurs, parce que c'est sans doute pas clair pour tout le monde, qu'en Grande-Bretagne, on peut vraiment objectiver ce type de résultats, précisément parce qu'on dispose à la fois de statistiques ethniques et puis de statistiques religieuses, même si la question religieuse au recensement, elle est facultative. Alors, il y a des éléments donc objectifs, encore une fois, qui corroborent ce que vous me dites. Si on prend, par exemple, les bourgs donc londoniens de Lambeth et de Hackney, ou de Haringey, donc au nord de Londres, qui sont des bourgs que l'on associe clairement à la population noire. On voit que Lambeth a voté pour le Remain, donc pour rester dans l'Union européenne, à hauteur de 78,6%, donc c'est considérable, 78,5% pour Hackney et puis 75,6% pour Haringey. Donc un tiers des minorités ethniques qui ont voté pour le Brexit, ça semble effectivement considérable, mais il ne faut pas non plus perdre de vue que le paysage d'ensemble donne clairement l'impression que les minorités ethniques ont voté massivement pour le Remain.
Et puis ce qu'on peut peut-être aussi ajouter, c'est qu'on évoquait hier cette question des enjeux économiques et de ce que pourrait provoquer le Brexit sur l'économie britannique. Et on disait que l'une des choses qui risque d'arriver, c'est qu'il y aura un accroissement, une aggravation des inégalités. Donc en réalité, précisément ces personnes qui ont voté pour le Brexit sur cette question des inégalités, elles risquent d'en être les premières victimes. En tout cas, il y a peu de chances que leur situation s'améliore. C'est ça aussi le paradoxe.
Oui, alors tout dépend là des conséquences qu'aura le vote Brexit s'agissant des décisions politiques qui vont être prises.
Est-ce que qui aura lieu dimanche prochain, je rappelle, voilà. le 11 prochain, le mardi
tout
prochain.
Tout à fait. Donc là, bon, c'est très très difficile de prévoir ce qui va se passer, mais de fait, un certain nombre de personnes qui ont voté donc pour le Brexit, qui font partie notamment, mais pas seulement, de cette classe ouvrière blanche, ont été d'une certaine manière vraiment tartufiées, hein, trompées par les arguments mensongers. Je dis ça en souriant parce que il y avait des choses qui étaient tellement grotesques qu'effectivement ça prête à sourire. Du parti UKIP par exemple, hein, qui disait voilà toute cette campagne autour du système de santé, en disant voilà une bonne partie de l'argent qu'on envoie à l'Europe pourrait servir à la refonte et puis à la redynamisation du système de santé. Bon, en l'occurrence, ils se sont basés sur des chiffres qui étaient faux. Enfin, il y a eu effectivement une immense campagne de désinformation autour de cette campagne du Brexit, et nombre d'électeurs a priori maintenant ils repensent en se disant voilà, sans doute que si on nous avait proposé, si on nous avait présenté tous les enjeux de manière honnête et objective, on n'aurait peut-être pas voté comme ça, ou alors on aurait voté, parce qu'il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il y a eu pas mal de gens qui n'ont pas voté.
Absolument. On va doucement, Olivier Estève, s'intéresser à la question du multiculturalisme. J'indique d'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait, que vous êtes l'auteur avec Romain Garbaille d'un ouvrage intitulé « Le multiculturalisme britannique au XXIe siècle, enjeu, débat politique » qui est paru aux presses Sorbonne Nouvelle. Parce qu'avec le Brexit, on peut penser qu'il pourrait y avoir des ajustements, des modifications concernant à la fois l'identité britannique et à la fois la conception que l'on se fait du multiculturalisme. L'émancipation de l'Union européenne pourrait évidemment avoir des effets dans la manière de penser sa propre identité et aussi son rapport à l'autre. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait changer dans les années à venir dans cette conception du multiculturalisme? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, par exemple, on supporte moins le séparatisme culturel, je mets des guillemets, mais on va en discuter, et qu'on exige davantage d'intégration, voire même d'assimilation?
Quand vous faites un distinguo entre intégration et assimilation, c'est pas aussi évident que ça. C'est-à-dire que lorsque le terme intégration en langue française et integration en anglais est utilisé par les élites politiques ou médiatiques, donc en Grande-Bretagne, il peut être compris après par l'opinion publique comme voulant dire assimilation.
D'accord qu'en français, on fait bien une différence entre l'intégration et l'assimilation, hein.
Mais bon.
On l'a fait pas en Grande-Bretagne.
Tout dépend, encore une fois, à mon avis, il y a une différence entre ce qui relève du discours des élites politiques et médiatiques et puis après ce qui est ressenti par la base. Oui. Une des questions qui est souvent posée par un certain nombre de petits blancs des classes ouvrières ou des classes moyennes, c'est do they want to integrate? Est-ce qu'ils veulent vraiment s'intégrer? Et dans cette façon de poser la question, integrate est interprété, pardon, comme voulant dire s'assimiler, c'est-à-dire dire de parler l'anglais, ce genre de choses. Alors sur les effets du Brexit par rapport au multiculturalisme britannique, j'aurais tendance à penser que si conséquences il y a, ce serait vraiment une des conséquences à la marge, puisque alors il y a tout un nombre d'enjeux importants. Premièrement, la critique du multiculturalisme britannique remonte à très loin. On en décèle les premiers effets au moment grosso modo de la crise des versets sataniques, donc en 1989, lorsque le roman de Salman Rushdie a été publié. Et puis depuis, sauf cette parenthèse multiculturelle avec Tony Blair, donc entre 97 et 2001, parenthèse qui a pris fin clairement avec le 11 septembre, on a tout le temps entendu des critiques à la fois des critiques violentes et aussi des critiques assez vagues sur le multiculturalisme, à la fois aussi à gauche de l'échiquier politique, mais aussi à droite. Et donc cette critique du multiculturalisme, elle n'est pas nouvelle, elle remonte quand même maintenant à quelques décennies, puisque je parle de 1989, et donc le Brexit de fait arrive finalement à la fin d'un processus. Alors après, ce qu'il faut prendre en compte également, ce sont les enjeux de politique étrangère, c'est-à-dire que une des critiques, me semble-t-il, les plus opératoires par rapport à la fois au discours pro multiculturalisme et aussi à la critique du multiculturalisme, c'est de dire que le multiculturalisme souvent procède par escamotage d'enjeux de politique étrangère. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que lorsqu'on dit oui, les attentats de Londres de 2005, c'est lié au communautarisme des musulmans ou je ne sais quoi, ce qu'on a appelé parallel lives là en anglais. En fait, c'est très largement n'importe quoi pour deux raisons. La première, c'est que ce sont des enjeux de politique étrangère et la politique désastreuse de Tony Blair en Irak qui ont directement débouché sur les attentats de 2005. Et deuxièmement, grâce et aux statistiques ethniques et aux statistiques religieuses, on peut objectiver le fait que des quartiers qui sont considérés comme des sortes de ghettos urbains où on n'a que des musulmans, bah ce ne sont pas des ghettos urbains où on n'a que des musulmans. Parce que les musulmans, par exemple, sont grosso modo 15% ou 20% ou 30% ou 40% dans des zones que l'on considère vraiment comme des ghettos urbains où il n'y a que des musulmans.
On va revenir justement sur ce lien qui est établi entre crise du multiculturalisme et puis la question du terrorisme, parce qu'évidemment, depuis 2001 et peut-être plus encore depuis 2005 avec les attentats de Londres et peut-être aussi depuis l'été 2017 avec cette série d'attentats, c'est une question de plus en plus prégnante. Écoutez justement ce que disait la Première ministre Theresa May juste après cette séquence des attentats de l'été 2017. Écoutez-la. But it is time to say enough is enough.
Il est temps de le dire. Trop, c'est trop. Chaque personne devrait mener une vie comme elle le ferait normalement. Notre société devrait continuer à fonctionner conformément à nos valeurs. Mais s'agissant de l'extrémisme et du terrorisme, il faut changer les choses. En tant que pays, notre réponse doit être celle qui a toujours prévalu lorsque nous avons été confrontés à la violence. Nous devons nous rassembler et nous unir. C'est ainsi que nous affronterons et vaincrons nos ennemis.
Nous devons nous unir, disait-elle, nous ne devons pas vivre comme des communautés séparées et ségrégées, mais comme un véritable Royaume-Uni. Voilà ce qu'avait dit la Première ministre, outre évidemment quelques annonces de mesures concrètes contre le terrorisme. Mais on se souvient, vous le disiez, le multiculturalisme, il a été attaqué depuis des années. Vous parliez de la fin des années 80, on pourrait aussi évoquer David Cameron qui, en arrivant, avait lui aussi parlé de l'échec du multiculturalisme, mais corrélé à ce point, crise du modèle multiculturel et phénomène terroriste, il y a quelque chose là d'inédit. Et d'ailleurs, Theresa May avait été considérablement critiquée. Je pense par exemple au Guardian, qui l'avait accusé de vouloir instaurer une forme de crime de la pensée, lui reprochant de faire l'amalgame entre les meurtriers et les musulmans pacifiques. Est-ce que ce modèle multiculturel britannique, il avait déjà été aussi attaqué frontalement? Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une rupture, Olivier Stern?
J'ai le sentiment que elle fait écho, certes de façon un peu plus radicale, au propos de David Cameron, donc au sommet de Munich sur la sécurité quelques années avant, où David Cameron avait stigmatisé ce qu'il avait appelé la state doctrine, la doctrine d'État du multiculturalisme. Cette critique du multiculturalisme, elle procède aussi par exagération de la portée du multiculturalisme lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu en Grande-Bretagne de doctrine d'État. Alors, doctrine, en plus, est un terme un petit peu hybride, puisqu'il renvoie à la fois à quelque chose de religieux et puis quelque chose de politique, en fait. Hein. Mais sauf cette parenthèse multiculturelle entre 97 et 2001.
Ouais, on va venir.
C'est-à-dire,
ce que je comprends, Olivier Estève, c'est qu'en réalité, parce qu'on parle tout le temps, nous, du modèle multiculturel britannique, en réalité, il n'existe pas. C'est un mythe. Outre peut-être cette parenthèse travailliste des années 2000, sinon ça n'existe pas. Il y a seulement des politiques d'intégration, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, voilà. Alors la question des politiques d'intégration, elle s'est posée en Grande-Bretagne quand même quelques décennies avant la France. Et les politiques multiculturelles, souvent, ce sont quand même des choix qui sont opérés au niveau local. Par exemple, pendant les années 80, et au niveau des politiques d'éducation. La Grande-Bretagne, bon, on en parlera peut-être dans quelques minutes, mais la Grande-Bretagne historiquement a des politiques éducatives qui sont très décentralisées par rapport à la France, même si c'est beaucoup moins le cas maintenant. Et donc ça permet, dans des zones qui sont précisément multiculturelles, d'instaurer des des programmes scolaires qui sont qui font la part belle, si vous voulez, à la diversité culturelle, à la diversité ethnique du pays. Donc ça c'est possible. Et puis l'enseignement des langues et cultures d'origine, par exemple, ce genre de choses. Donc je pense que vu de France, on a toujours tendance à exagérer. Je le voyais encore ce matin dans un article de Laurent Geoffrin dans Libération, où on parle des Anglo-Saxons. Mais parler des Anglo-Saxons ou de modèles Anglo-Saxons, et en l'occurrence ici de modèles multiculturels pour la Grande-Bretagne, ça a pas vraiment de sens. D'abord les Britanniques eux-mêmes et puis les Américains se définissent pas comme Anglo-Saxons, même si on a le ce qu'on appelle le modèle WASP aux États-Unis qui est en perte de vitesse. Pour revenir à ce que vous disiez sur les attentats et tout, lorsque avaient eu lieu donc les attentats de Londres et puis de Manchester de 2017, Romain Garbaille, Vincent Latour, donc un collègue de Toulouse, et moi-même avions pondu une tribune dans Le Monde. Et je me souviens que c'était Vincent Latour qui avait contribué cette idée-là, en disant que lorsqu'ont eu lieu les attentats de Madrid de 2004, qui étaient extrêmement meurtriers pour le coup, jamais personne en France n'a dit « Ah, c'est le modèle d'intégration ou je ne sais quoi, ou le modèle d'immigration à l'espagnol qui ne fonctionne pas ». Personne n'a dit ça. On a tous invoqué effectivement des enjeux de politique étrangère, et puis
je vous crois, mais alors... Pourquoi est-ce qu'on l'a dit pour la Grande-Bretagne? S'il n'y a pas de modèle multiculturel britannique et qu'il n'y a que des politiques, disons, de reconnaissance de la diversité culturelle, alors et qu'il n'y a pas finalement de crise du multiculturalisme, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de crise du multiculturalisme? C'est en fait un rejet de l'islam, c'est de l'islamophobie, c'est ça qu'il y a derrière?
Oui, alors il y a cette dimension-là, clairement, mais s'agissant d'un certain discours dominant, à mon avis, en France, il y a toujours une manière pour nous de nous rassurer sur nos propres façons de faire, et puis surtout une façon de mettre, de tenir à bout de bras, si vous voulez, ce qui nous semble être la mauvaise façon de faire, à savoir la façon de faire britannique. Mais en l'occurrence, les enjeux urbains ou démographiques ou politiques ou immobiliers, pour le coup, hein, de la ségrégation résidentielle dans un certain nombre de grandes villes en Grande-Bretagne sont très peu différents de ce qui se passe en France. Il se trouve qu'il y a des enjeux immobiliers qui sont ce qu'ils sont. Il y a des politiques d'accès à la propriété qui, à la fois en Grande-Bretagne, mais aussi en France, mais aussi aux États-Unis d'une certaine manière, hein, même si la portée des problèmes n'est pas la même, qui font que, in fine, après des décennies où on nous a parlé d'intégration et puis de déségrégation de certaines zones urbaines, on en vient effectivement à une sorte de cloisonnement, de ségrégation résidentielle. Bon, je suis désolé,
c'est la ségrégation résidentielle qui pose problème. Parce que je veux absolument bien vous concéder le fait qu'il n'y aurait pas de modèle multiculturel britannique, mais si on s'accorde sur le fait que le multiculturalisme renvoie quand même à l'existence d'une diversité ethnique et culturelle et recouvre donc l'ensemble des politiques publiques destinées à reconnaître et à gérer cette diversité ethnoculturelle, est-ce que vous concédez quand même que certaines de ces politiques ont pu parfois provoquer du repli identitaire, du séparatisme culturel qui va à l'encontre d'un vivre ensemble? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui a mal fonctionné? Vous parliez de mauvaise façon de faire.
Effectivement, il y a ça, mais le problème, c'est que derrière ce type d'argumentaire, on va toujours avoir tendance à effectivement mettre en suspicion les minorités elles-mêmes. C'est-à-dire que bon, David Cameron, il est bien gentil, hein, Theresa May également, mais la question des vies parallèles qui seraient menées par les minorités ethniques n'est jamais posée par rapport aux classes les plus aisées en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que jamais on ne va dire « Ah oui, mais David Cameron, il a grandi dans le quartier de Notting Hill, qui est maintenant un quartier extrêmement aisé, hein, extrêmement riche, contrairement à ce qui se passait il y a 50 ans. » Et donc, c'est un débat qui est vraiment parallèle à ce mot matraque qui est le mot de communautarisme en langue française. C'est-à-dire que en France, jamais, on va dire, ou très rarement, quelques sociologues vont le dire, mais ils vont être inaudibles dans le débat public, sauf peut-être sur France Culture, des sociologues vont dire, oui, mais le terme de communautarisme, on ne va jamais l'appliquer au 16e arrondissement de Paris. Pourtant, c'est précisément ce qui se passe. Sauf que c'est pas un communautarisme ethnique, religieux ou culturel, c'est un communautarisme social. C'est un communautarisme lié à des classes sociales. Et précisément parce que comme ces classes sociales sont à 99% des blancs, des chrétiens, qui parfois vont à la messe le dimanche, jamais on va les mettre en suspicion.
Olivier Estève, on parlait de 2017, du discours de Theresa May. Je voudrais voudrais qu'on revienne encore un petit peu en arrière. On est en 2011, un jeune métis, Marc Degan, meurt sous les balles de la police et s'en suivent plusieurs nuits d'émeutes qui vont mettre peut-être en lumière un malaise racial qui rongerait la société britannique. Souvenez-vous.
C'est un cri de désespoir, vous savez. La police les harcèle beaucoup, tout le temps et sans raison.
Nous voulons juste être entendus, nous voulons la justice, nous voulons notre part du gâteau. Nous vivons à Brixton, on nous donne rien, on en a marre. Si les gens veulent des émeutes, qu'il y ait des émeutes. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais nous en avons assez.
Voilà, les émeutes extrêmement violentes en 2011, plusieurs nuits d'émeutes. La spécificité de ces événements, Olivier Estève, c'est peut-être qu'il y avait derrière tout cela un caractère racial. Est-ce que ça, c'était totalement inédit à l'époque, ou est-ce qu'on avait déjà eu quelque chose qui relève de l'émeute raciale en Grande-Bretagne?
C'est un peu plus compliqué que ça, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu en Grande-Bretagne donc plusieurs vagues d'émeutes où l'élément racial était au cœur des événements. Alors premièrement, en 1958, où précisément dans le quartier de Notting Hill, qui était très différent de celui dans lequel a grandi David Cameron, on a eu donc des événements qui étaient des émeutes qui n'étaient pas des émeutes raciales, mais des émeutes racistes, où en fait, de fait, ouais, des blancs s'en sont pris à des noirs en disant voilà, on va les lyncher, en reprenant effectivement du vocabulaire qu'on associe normalement au Ku Klux Klan. Donc ça, c'était un premier événement. On peut difficilement d'ailleurs les qualifier d'émeutes, c'était plutôt des échauffourées, ce qu'on appelle en anglais skirmishes. Alors après, on a 1981. Où en fait les émeutes de Brixton, hein, qui ont été qui sont entrées dans la mémoire collective précisément comme des émeutes raciales. Bon, Brixton et puis après d'autres quartiers, hein, Toxteth à Liverpool, puis d'autres quartiers également. Donc après 95, dans une moindre mesure, donc à Bradford, donc dans le nord de l'Angleterre. Plus important 2001 au nord de l'Angleterre, donc toujours Bradford, Oldham et Burnley, où là vraiment ce sont des jeunes d'origine pakistanaise qui s'en prennent donc à des militants racistes et puis qui s'en prennent après à la police et les violences ont été considérables donc en 2001. Et alors 2011, c'est un peu plus compliqué parce que l'élément racial certes est présent puisque le déclencheur d'une certaine manière c'est effectivement l'événement tragique autour de Mark Duggan, qui lui-même, comme vous l'avez bien dit, est un métis, hein, mixed race, on dirait en anglais. Mais en même temps, l'élément racial, même si c'est un des vecteurs, un des schémas d'explication donc des émeutes elles-mêmes, n'est pas au premier plan, contrairement à 81 et contrairement à 2001. Quoi. 81, c'était vraiment typiquement des jeunes d'origine caribéenne, même si, et ça c'est un truc qu'a bien montré Paul Gilroy, le nombre de personnes donc qui sont passées en jugement, c'était grosso modo un tiers des personnes qui étaient d'origine caribéenne, hein. Et puis alors donc un tiers seulement.
Donc on comprend que finalement c'était pas la première fois, comme je le disais, en revanche il y a peut-être quelque chose qui est plus inédit, c'est la manière dont les politiques ont répondu à tout ça. En tout cas, il y a eu un rapport parlementaire pour essayer de comprendre justement les racines de ces violences raciales. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y avait eu dans ce rapport, les conclusions, ce qui avait été proposé peut-être pour renforcer la cohésion sociale, parce que je crois que c'est l'un des premiers rapports, sinon le premier rapport qui a introduit cette idée, cette notion de racisme institutionnel, n'est-ce pas?
Alors non, ça c'était plutôt en 97-98, ce qu'on appelle le rapport MacPherson, qui lui a pointé, donc après le meurtre raciste de Stephen Lawrence, donc en 93, la question du racisme institutionnel notamment de la police, hein, et donc c'était un rapport MacPherson qui a été très violemment critiqué par les journaux de droite et puis par le parti conservateur. Non, pour résumer sur la question des émeutes de 2011, très très simplement, l'ampleur des dégâts a été considérable. Il y a eu des scènes de pillage qui étaient quasiment sans précédent dans l'histoire récente de la Grande-Bretagne. Mais l'élément racial, même si c'était un élément qui existait, hein, clairement, était un peu mis au second plan, quoi. C'était plutôt des scènes de pillage à grande échelle. Et ce que ça a montré, effectivement, c'est une fracture qui, du coup, est beaucoup plus une fracture entre des classes sociales plutôt que entre des groupes ethniques ou raciaux. Mmh. Et ce qu'il faut ne pas non plus perdre de vue, c'est que c'était, on a parlé également, il y a eu un certain nombre de commentaires qui ont été faits sur l'émeute silencieuse, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de catégories de la population, au premier rang desquelles les étudiants, qui avaient vu leurs frais d'inscription aux universités tripler de nouveau avec Cameron, hein. ils avaient été triplés une première fois avec Blair, et les frais d'inscription aux universités ont été triplés par Cameron, et quelques mois après, il y a eu les émeutes. Et même si, de fait, les étudiants ont pris une part très très minoritaire dans les émeutes, il y avait une sorte de solidarité vis-à-vis du phénomène émeutier qui émanait des étudiants en Grande-Bretagne.
Mais si je reviens sur les émeutes de 2011, j'évoquais donc ce rapport parlementaire qui avait été mis en place. Est-ce qu'on a pris ensuite des décisions politiques destinées justement à lutter contre ce racisme institutionnel?
Non, je pense que non.
Enfin, aucune décision.
Non, pas vraiment. On est assez vite passé à autre chose. Et effectivement, bon, après, c'est quand même la question de l'Europe qui est venue au premier plan. L'autre élément, et c'est aussi un truc qu'on a tendance à pas prendre en compte en France, c'est que lorsqu'on a parlé depuis 7 ou 8 ans de politique d'austérité. En Europe, on a toujours associé les politiques d'austérité à des pays qui font partie intégrante de la zone euro, principalement la Grèce, bien évidemment. Et donc, il y a eu cette sorte d'association systématique entre austérité et puis Grèce, avec les conséquences politiques et surtout sociales que ça induit. Très rarement, sauf d'ailleurs, j'ai entendu une série d'émissions sur France Culture qui parlait de ça, donc je fais votre pub.
C'est gentil.
Non, mais voilà, c'est la moindre des choses. Et simplement, il y a eu en Grande-Bretagne, sous Cameron et après sous Theresa May, des politiques qui étaient vraiment obsessionnellement austéritaires, où vraiment on a instauré une austérité qui, à certains points de vue, allait au-delà des rêves les plus fous de Margaret Thatcher quelques décennies auparavant. Et ça a eu des conséquences sociales qui étaient absolument considérables et qui, de fait, ont creusé les inégalités qui sont au cœur de l'émission aujourd'hui.
Il y a autre chose qu'il faut absolument qu'on évoque maintenant, c'est que parallèlement à cette question du racisme institutionnel qu'on évoque, on va aussi voir s'accroître de plus en plus un ressentiment de cette classe populaire blanche qui se sent à son tour, au fond, délaissée et invisibilisée d'une certaine manière, ce qu'on appelle le white backlash. Vous dites que ce ressentiment racial, il est parfaitement symbolisé par le terme chav. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce qu'il y a derrière ce terme chav? Qu'est-ce qu'il nous dit précisément du déclassement de cette classe ouvrière blanche?
Alors, le terme chav, en fait, d'abord, ça s'orthographie C-H-A-V,
ouais.
Voilà, ou C-H-A-V-S, il y en a plusieurs. Et donc, ça ne veut absolument rien dire aux États-Unis. Donc, si vous allez aux États-Unis, ne l'utilisez pas. Mais de toute façon, en Grande-Bretagne, ne l'utilisez pas non plus, puisque c'est un terme, bien évidemment, clairement péjoratif.
Dont
une traduction forcément impressionniste, hein, en français, donnerait quelque chose comme cassos, quoi. Si vous voulez. On fait référence, en fait, à des classes ouvrières blanches qui sont stigmatisées comme non méritantes, comme ne travaillant pas, ne voulant pas travailler, voilà. Et donc, c'est associé effectivement à un certain nombre de modes vestimentaires ou de codes vestimentaires, comme le port d'un survêtement, le port d'une casquette dans des centres commerciaux, ce genre de choses. Et depuis 2003-2004, donc ça remonte maintenant à presque 15 ans, hein, je pense que le terme chav est entré dans la langue anglaise, donc britannique, en 2003-2004. Hein, et il a été propulsé mot de l'année par le dictionnaire, par plusieurs dictionnaires, donc en 2005-2006.
Hein. 2004, à en croire vos écrits
de 2004, voilà, d'accord, ouais. Ok, merci beaucoup de préciser.
Parce que je l'ai lu sous votre plume. Hein.
D'accord, merci beaucoup. Et mais simplement, les Britanniques sont très férus de classement, de voilà. Hein.
Oui, les entrées dans le dictionnaire sont toujours un événement.
Effectivement. Ouais. Et donc, ce terme de chav, si vous voulez, il va stigmatiser cette catégorie-là des classes ouvrières blanches. Ouais. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que notamment dans la presse conservatrice, qui va à la fois les stigmatiser et qui en même temps la presse conservatrice, elle va les stigmatiser en disant voilà, mais ces personnes-là ont des résultats scolaires qui sont bien moindres que les minorités ethniques méritantes que sont par exemple les Chinois et les Indiens, quoi. Et en même temps, des journaux comme Le Sun, Daily Mail et tout, vont prendre la défense de, cette catégorie-là en disant « Mais regardez, les immigrés, les minorités passent avant vous, elles obtiennent des aides sociales avant vous, elles obtiennent des logements sociaux avant vous. » La question du logement est absolument cruciale, pas seulement dans la zone du Grand Londres. Hein. Et donc, si vous voulez, d'une certaine manière, c'est alors une lecture classiquement marxiste de ce phénomène-là, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de vérité là-dedans, consiste à voir ce discours comme une façon de diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'au moment où précisément il y a eu la crise des subprimes et au moment où il y a eu ce qu'on appelle en Grande-Bretagne le credit crunch là autour des politiques austéritaires et puis de toutes les conséquences sociales désastreuses de ces choix politiques-là, on va diviser les catégories les plus vulnérables de la société pour mieux régner. C'est-à-dire qu'on va vraiment dire aux personnes qu'on considère ou dont on dit qu'elles sont des chavs que les minorités ethniques passent avant elles dans l'accès au logement social ou je ne sais quoi.
Oui, ce que vous dites, c'est que derrière ce terme de chav et les discours qui l'accompagnent, il y a, et je vous cite, une tendance à cultiver l'antagonisme ethnique et culturel entre deux sections de la classe ouvrière, l'une blanche et l'autre issue de l'immigration. Donc si je vous comprends bien, il y a une division d'un groupe social autrefois relativement unis sur des bases ethniques et raciales. J'entends aussi le fait qu'il y a une responsabilité de la presse conservatrice et peut-être même des responsables politiques conservateurs. Mais après tout, on pourrait aussi retourner les choses et dire qu'il y a aussi une responsabilité du côté du Labour, c'est-à-dire que les travaillistes ont été dans l'incapacité précisément de faire face à cette désunion de cette classe sociale. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour quelle responsabilité pour le Labour dans aussi la récupération de cette classe sociale qui traditionnellement votait pour les travaillistes?
Alors il y a deux éléments. L'élément qui vient à l'esprit de façon la plus nette, c'est effectivement le grand virage libéral au sens économique du terme du parti de Blair à partir de grosso modo le milieu des années 90. Donc ça c'est un premier élément. Le parti travailliste à l'image d'un certain nombre d'autres partis de gauche traditionnels en Europe, mais aussi aux États-Unis, a opéré ce virage libéral, en allant d'ailleurs plus loin que le Parti socialiste en France. C'est-à-dire que lorsque M. Jospin dit « mon programme n'est pas socialiste, il est d'inspiration socialiste », bon, bien évidemment, c'était très très net, mais en même temps, si on voit les choses du point de vue britannique, c'est aller beaucoup plus loin dans le virage libéral, si vous voulez. Alors, de façon un peu moins nette, mais c'est quand même assez net, le Parti travailliste a toujours été très embarrassé précisément par rapport à ces questions d'immigration et d'intégration. C'est-à-dire que moi, j'ai lu ces derniers mois des milliers de lettres qui ont été envoyées à un grand leader de droite radicale qui s'appelait Enoch Powell, donc en 1968, où dès 68, donc ça remonte à 50 ans quand même, hein, où dès 68, des milliers d'électeurs travaillistes, pour le coup, envoie à Enoch Powell, donc un leader de droite radicale, des courriers de félicitations en lui disant voilà, vous avez parlé d'immigration, vous avez dit qu'il y a trop d'immigrés, vous avez dit que dans les écoles ou dans les hôpitaux, notre accès effectivement à l'État-providence, il est rendu plus difficile par la présence massive d'immigrés. Et donc cette question-là de l'embarras travailliste vis-à-vis des questions d'immigration et d'intégration remonte à très loin, quoi.
Il y a quand même un paradoxe sur lequel je voudrais vous entendre, Olivier Estève, c'est qu'on entend effectivement cette instrumentalisation politique à propos de cette division de ce groupe social, division sur des bases ethniques et raciales. On évoquait là la responsabilité peut-être des travaillistes, mais il y a quand même un parti qui a largement surfé sur ce phénomène et largement surfé sur ce ressentiment de la classe ouvrière blanche, c'est UKIP, parti europhobe, xénophobe, qui d'ailleurs avait fait de la sortie de l'Union européenne le cœur de son projet. Sauf qu'aujourd'hui, UKIP, il a quasiment disparu de la scène politique. Alors comment comprendre ce qui quand même apparaît comme un paradoxe? Est-ce à dire que finalement, le nationalisme britannique réveillé par le Brexit s'est déjà endormi?
C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Alors simplement, effectivement, la sortie de l'Union européenne, d'une certaine manière, a démonétisé le UK lui-même, puisque sa raison d'être était précisément la prise d'indépendance donc du Royaume-Uni et puis la sortie de l'Union européenne. Donc qu'advient-il quand effectivement la sortie de l'Union européenne est actée?
Oui, mais sauf qu'il y avait derrière cette sortie de l'Union européenne, il y avait autre chose. Il y avait cette question de la menace réelle ou supposée de l'identité britannique. De
oui,
la britannicité.
Là, pour le coup, moi, je vais être très très prudent et je me risquerai pas donc à des pronostics sur les années à venir. Mais c'est vrai que très clairement, démographiquement, un certain nombre d'études donc sur le comportement électoral des Britanniques ont bien montré que un certain nombre de classes ouvrières blanches, notamment, ont été séduites par les sirènes de UK. Bon, alors il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi pas mal de membres des classes moyennes, mais le UK, notamment grâce à son style politique, je pense que là on est vraiment au cœur du style politique des populistes. Hein. Un certain nombre de grands leaders du UK sont des millionnaires, hein, mais ce sont des millionnaires qui parlent comme les gens, hein, qui sont pris en photo en train de fumer une cigarette et puis de boire une pinte de bière devant un mur de briques. Et donc ça fait proche des gens, contrairement d'ailleurs à un certain nombre de leaders travaillistes qui à commencer par Gordon Brown ou Tony Blair, qui ont eu toujours beaucoup de difficultés avec cette proximité vis-à-vis de cette proximité d'habitude de vie, de style de vie, cette proximité vis-à-vis du britannique lambda.
On est toujours avec vous, Olivier Estève, autour de cette série consacrée au Royaume-Uni. Aujourd'hui, fracture sociale et territoriale, le risque de la désunion. Eh bien, la désunion, elle pourrait venir aussi de la question de l'éducation, sur laquelle on va se pencher tout de suite.
Je veux que la Grande-Bretagne soit la plus grande méritocratie du monde. Je veux qu'elle soit un pays où chaque personne a la chance d'aller aussi loin que son talent et son travail lui permettront. Je souhaite que nous soyons un pays où tout le monde est confronté aux mêmes règles. Un pays où les gens ordinaires, les citoyens de la classe ouvrière, ont plus de contrôle sur leur vie et où ils ont la possibilité de partager équitablement la prospérité de la nation. Et je souhaite que la Grande-Bretagne soit un lieu où les avantages sont fondés sur le mérite et non sur le privilège. C'est votre talent et votre travail qui comptent. Peu importe l'endroit où vous êtes né, le statut de vos parents ou quel accent vous avez.
Voilà, extrait d'un discours de Theresa May le 27 mars dernier à propos donc de la promotion de la méritocratie au Royaume-Uni. Et pour améliorer la méritocratie, il faut s'attaquer de front à la question de l'éducation. On va regarder ça tout de suite. Au Royaume-Uni, le système scolaire tente à refléter et reproduire même les inégalités sociales. Les excellentes écoles accueillent principalement les enfants blancs et de classe moyenne supérieure, tandis que les écoles les moins bien cotées et aux ressources limitées accueillent les enfants de la classe ouvrière, réduisant presque à néant les perspectives de mobilité sociale. En 2010, la coalition gouvernementale a mis en place une réforme, le Self-Improving School-Led System, qui avait pour objectif de promouvoir la méritocratie et de réduire les inégalités au sein du système éducatif. Et puis, 8 ans plus tard, il y a un rapport qui a été établi récemment par deux universitaires qui montre que, loin d'avoir amélioré le système, la réforme a plutôt eu tendance à creuser davantage les inégalités. On va retrouver Diane Ray, qui est sociologue, professeure en sciences de l'éducation à l'université de Cambridge, qui revient donc sur cette réforme, qui nous explique les défaillances du système scolaire britannique et les solutions peut-être que le gouvernement pourrait éventuellement mettre en œuvre pour un système plus égalitaire. Elle est au micro de Maëlys André.
The self-improving school-led system policy.
L'idée est d'utiliser les ambitions des élèves et du personnel éducatif pour améliorer le système. Mais les études montrent que notre système éducatif ne s'est pas amélioré. La réforme du système scolaire fait partie de l'agenda politique de la droite qui vise à l'autonomisation des élèves et des établissements et tend à les rendre responsables de leurs propres progrès sans véritablement changer le système en profondeur ou sans accroître les ressources des écoles publiques. En rejetant la faute sur les premières victimes de ces politiques, le gouvernement et les élites se dédouanent de leurs responsabilités dans les défaillances du système scolaire. Les recherches contemporaines montrent de manière très claire que ce sont la richesse et le bien-être des parents qui déterminent les performances scolaires, bien plus que les talents ou les efforts des élèves et de leurs professeurs.
8 ans après la mise en œuvre de cette réforme, l'étude publiée au mois de mai souligne que les inégalités entre les écoles se sont creusées et que finalement, la réforme en question aurait des impacts négatifs sur le système scolaire dans son ensemble. Est-ce que vous partagez ces critiques ?
Oui, je suis d'accord. Le rapport montre que la réforme a accru la concurrence au sein des établissements, mais aussi entre établissements, et qu'elle a renforcé la hiérarchisation, la polarisation et la fragmentation du système dans son ensemble. Cela me paraît vrai. Je crois que dans une certaine mesure, c'était aussi l'objectif du gouvernement de droite. Cela faisait partie d'une offensive idéologique pour la privatisation et la dérégulation du système scolaire, afin de l'ouvrir aux forces du marché.
On peut donc dire que, dans les faits, cette réforme est complètement à l'opposé des ambitions affichées.
Oui, je crois bien. La réforme a vraiment réussi à soumettre le système public à la logique marchande et privée. Aujourd'hui, 25% de nos établissements d'enseignement secondaire et 27% des écoles primaires en Angleterre sont des académies. Elles ne font donc plus vraiment partie du système éducatif public.
Pouvons-nous dire que le système scolaire en général entrave toute possibilité de réduire les inégalités sociales, voire même les accentue ?
Il faut bien se rappeler qu'au Royaume-Uni, le système d'éducation privée a toujours été extrêmement puissant et influent. En fait, 23% de nos dépenses publiques d'éducation vont aux 7% d'étudiants qui reçoivent une éducation privée. Cela veut dire que nos élites ont toujours bénéficié d'une éducation à part, d'une éducation sélective, séparée du reste de la population britannique. Mais là, on voit de nouvelles divisions apparaître au sein même du système public. La moitié des élèves qui bénéficient de la gratuité de la cantine, c'est-à-dire la moitié des élèves pauvres, sont éduqués dans seulement un cinquième des établissements. Et 4/5 des élèves issus des minorités noires ou asiatiques fréquentent des écoles où les minorités ethniques sont majoritaires. Donc on observe une polarisation et une ségrégation croissante de l'éducation.
Comment explique-t-on cela historiquement et politiquement ?
L'éducation publique existe depuis 150 ans au Royaume-Uni. Mais le système n'a jamais été pensé pour éduquer ni émanciper la classe ouvrière. Il s'est toujours agi de la contrôler, de la discipliner, de la pacifier. Aujourd'hui, on voit réapparaître avec les académies l'équivalent des anciens pensionnats pour élèves des classes populaires, dont la culture, la logique était de les couper d'une communauté ouvrière jugée nocive. Il s'agit en fait d'extraire les élèves de classes populaires, noires ou blancs, de leur milieu d'origine et d'encourager leur ambition à rejoindre la classe moyenne.
Le Royaume-Uni semble avoir la volonté de mettre en place un système scolaire plus égalitaire. Pourtant, les Britanniques sont traditionnellement opposés à un État interventionniste. Comment pouvons-nous expliquer ce paradoxe ?
C'est très intéressant parce qu'on vit à la fois une remise en cause générale du secteur public, avec la privatisation non seulement du système éducatif, mais aussi du système de protection sociale. Et en même temps, l'État n'a jamais autant contrôlé l'éducation. En fait, nous avons surtout supprimé l'échelon local démocratiquement élu. Les académies et les fonds privés qui les gèrent sont désormais directement responsables devant le ministre.
Selon vous, et selon votre expérience, que pourrait faire le gouvernement pour réduire les inégalités scolaires ? Que peut-il faire pour promouvoir la méritocratie ?
La question est très intéressante. Je crois qu'en se concentrant sur les aspirations à s'élever socialement, les politiques actuelles ont responsabilisé ceux qui ont pourtant le moins de chances de s'en sortir, c'est-à-dire les enfants de classe populaire, noire ou blanche, et les jeunes en général. La comparaison avec la France me paraît pertinente. Je me suis beaucoup intéressée aux travaux de Didier Eribon et d'Edouard Louis, qui donnent à voir les effets dévastateurs de la mobilité sociale dans le contexte français. Je crois qu'avant toute chose, nous avons besoin d'une société plus égalitaire au Royaume-Uni, afin que la mobilité sociale fonctionne. Dans une société minée par les inégalités, comme c'est le cas au Royaume-Uni, la mobilité sociale se contente d'arracher quelques individus à leur milieu d'origine, les éloigne sans leur permettre véritablement de s'intégrer à la classe moyenne, vers laquelle ils sont pourtant poussés. Cela ne marche pas. Nous avons vraiment besoin d'une société plus juste où l'écart entre les riches et les pauvres serait réduit. À ce moment-là seulement, nous pourrons réformer l'éducation autour d'un système général et moins compétitif. Car en ce moment, nous souffrons d'une culture nocive qui oppose les gagnants aux perdants, dans laquelle la plupart des élèves sont considérés comme des perdants. La grande place accordée aux stratégies parentales favorise aussi la classe supérieure et la classe moyenne aisée, au détriment des classes populaires qui se retrouvent à devoir choisir ce dont les plus privilégiés n'ont pas voulu. Il y a plein de choses que nous pourrions mettre en place. Nous pourrions enseigner à nos élèves à développer leur esprit critique, à apprendre de manière plus créative, à travailler en commun, plutôt que dans un environnement qui exacerbe la compétition individuelle, comme nous avons en ce moment dans nos écoles. Mais je pense que la première étape pour le Royaume-Uni doit être celle d'une redistribution majeure pour une meilleure répartition des richesses et des revenus.
Voilà, on entendait à l'instant Diane Rey, sociologue et professeure en sciences de l'éducation à l'université de Cambridge. Elle était au micro de Maïlys André. Réaction, Olivier Estève, depuis Lille, sur les propos que vous venez d'entendre. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord sur cette idée que le gouvernement, finalement, gouvernement conservateur, a rejeté la faute, la responsabilité sur les élèves des classes populaires? Finalement, si les plus défavorisés échouent à l'école, à l'université, bah c'est leur faute.
Oui, alors assez très largement. Alors ce que ne dit pas donc la collègue, même si je suis tout à fait d'accord avec la totalité de son intervention, c'est que l'éducation en Grande-Bretagne n'est pas au départ l'élément central de l'État-providence à la britannique. C'est-à-dire que les Britanniques sont beaucoup plus traditionnellement attachés à leur système de santé qu'à leur école. Précisément parce que la grande réforme d'éducation qui a modernisé et qui a essayé d'égaliser, de démocratiser l'accès à l'école, a été votée pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944. Mmh. Et donc n'a pas fait tout le travail, ça a été une réforme à la fois importante, mais en même temps assez timide. Et n'a pas fait le travail n'a pas fait un vrai travail d'égalisation des conditions d'accès à l'éducation.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire justement ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire s'il y avait là une ou deux urgences pour améliorer justement les choses ? Et est-ce qu'on peut croire justement à la volonté politique d'améliorer les choses ?
Bah, sans doute que non, parce qu'effectivement, à la fois, ce qu'il faut d'abord prendre en considération de façon beaucoup plus récente, puisque je parlais de 1944, ça commence à remonter un peu loin, c'est que Monsieur Blair, en introduisant donc ce qu'il a appelé donc des académies, et puis plus tard donc David Cameron avec ses fameuses écoles libres, free schools, ce sont finalement des politiques néolibérales en matière d'éducation qui sont très très peu différentes les unes des autres, à tel point que academy et puis free school c'est un petit peu synonyme. Et effectivement, une certaine interprétation vraiment néolibérale de la notion de méritocratie. On a effectivement des inégalités dans l'accès à l'éducation qui sont béantes donc en Grande-Bretagne et qui l'ont toujours été et qui le sont peut-être encore plus maintenant qu'il y a 30 ou 40 ans. Et là, effectivement, les sommes qui sont donc allouées aux écoles privées donc en Grande-Bretagne, non seulement les sommes qui sont allouées, mais aussi les privilèges, notamment fiscaux, dont bénéficient les écoles privées, doivent être clairement au cœur du débat. Mmh. Je préciserai un autre élément sur l'éducation, si on en a le temps.
Je vous en prie, allez-y. 30 secondes.
L'idée, en fait, c'est celle de ce que Romain Garbaille et moi avons appelé la confessionnalisation du multiculturalisme, c'est-à-dire que puisque l'État met de moins en moins d'argent dans les écoles, l'État est d'une certaine manière assez satisfait lorsque des groupes religieux, les musulmans, mais pas seulement les musulmans, les sikhs, les juifs, les adventistes éventuellement, ou les mormons, créent eux-mêmes des écoles. Et là, de ce fait, ça va avoir tendance effectivement à générer des formes de ségrégation confessionnelle sur la base précisément d'écoles qui ont tendance à n'accepter soit que des juifs, soit que des musulmans, soit que des sikhs.
Donc après la privatisation finalement du système scolaire, vient la confessionnalisation du système scolaire britannique.
Tout à fait. Et cette confessionnalisation, elle est portée précisément par des personnes qui critiquent le multiculturalisme par ailleurs. Donc là, vraiment, on a affaire à un discours qui est clairement hypocrite.
Hell for leather, lathered, drunk. You soused, you pissed, you sunk. The jukebox now is drunk, just along the way. Had a call last Saturday, say I'd thrown my friends away. Reverse the charges on them all. I made a lot of calls. Is there a storm coming?
Storm Warning, magnifique titre d'un groupe définitivement anglais, I Am Clout, trouvé, déniché par Benjamin Hu. On mettra la référence justement de cette musique sur le site de France Culture. Merci infiniment Olivier Estève d'avoir été avec nous en duplex de Lille. Je remercie d'ailleurs les techniciens qui étaient avec nous. Je rappellerai que vous concernant le multiculturalisme britannique au XXIe siècle, enjeu débat politique, là aussi référence à retrouver sur la page de Culture Monde. 11h53.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors la prochaine crise a déjà sa date fixée, d'après plusieurs experts, dont Nouriel Roubini, ça serait 2020.
Eh oui, l'actuelle expansion devrait se poursuivre encore l'année prochaine grâce aux extravagants déficits budgétaires américains et la politique chinoise du crédit. Mais la politique de Trump n'est pas tenable. La surchauffe va se traduire par de l'inflation, ce qui va contraindre la Fed à resserrer le crédit. Et les autres banques centrales seront contraintes de suivre. Donc, oui, dirait Madame Irma, attendez-vous à une récession mondiale en 2020. Très bien, mais qu'en sera-t-il de nous autres en Europe? Avons-nous su imaginer les contre-feux qui nous permettront d'éviter la catastrophe de 2009 dont nous payons encore les conséquences sur le plan politique? L'économie européenne fait face à un ralentissement. Voilà ce qu'écrit Lucrezia Reichlin, professeure à la London Business School. En fait, la tendance baissière est nette. Certes, la croissance a été relativement satisfaisante, au moins à l'échelle des piètres performances de l'ensemble européen au cours des années 2016 et 2017, mais le pic a été atteint au troisième et quatrième trimestre de l'an dernier, et depuis, la croissance en Europe ne cesse de ralentir dans toute la zone euro et même en Allemagne. Le plus préoccupant, c'est que le redémarrage de nos économies avait été provoqué par les fameux moyens non conventionnels, une politique monétaire très expansive, mais visiblement, les effets qu'on pouvait en attendre sont maintenant en train de s'estomper et le taux de chômage de la zone continue à tourner autour du pourcentage déprimant de 8%. Du coup, poursuit Lucrezia Reichlin, la zone euro va devoir faire face, aussitôt après les élections au Parlement européen, à deux catégories de problèmes structurels. Ceux qui préexistaient à la crise de 2008 et d'autres qui sont nés depuis. Comme avant 2008, les coffres des banques dans certains pays européens contiennent encore des actifs très suspects, ce qui les fragilise. Le haut niveau d'endettement de plusieurs pays européens pose aussi un défi à la croissance. Mais surtout, si une véritable récession avait lieu dans un proche avenir, les moyens pour la combattre resteraient limités. La zone euro s'est dotée de nouveaux outils au cours de la dernière crise, comme l'union bancaire, mais ceux-ci, dans l'ensemble, demeurent incomplets. Et surtout, l'outil massue, l'écrasement des taux d'intérêt, ne pourra pas resservir. Elle est encore en service. Un nouveau programme de rachat des dettes poserait d'énormes problèmes, tant économiques que politiques. Alors la riposte adaptée à une nouvelle réception serait un stimulus fiscal, une baisse massive des impôts. Mais elle ne pourrait avoir lieu que de manière coordonnée dans le cadre de la zone euro tout entière. Or, comme on sait, beaucoup d'États membres refusent encore toute idée de politique fiscale commune. Alors ce qui rassurerait les marchés financiers aujourd'hui, c'est que d'ores et déjà les dirigeants des États membres annoncent ce qu'ils sont prêts à faire ensemble dans le domaine lorsque la récession se produira. Autre préoccupation, une nouvelle récession aurait le double inconvénient de diviser les marchés financiers selon les frontières nationales, alors même que les intérêts des banques européennes sont liés.
Alors Brice, voilà pour les défis structurels. Maintenant, qu'en est-il des défis conjoncturels?
Oui, parce que outre ces problèmes structurels qu'elle trimballe depuis longtemps, l'Europe va devoir faire face en effet à d'autres défis tout aussi préoccupants. Le risque d'un divorce sans possibilité d'accord avec les Britanniques, on en a parlé beaucoup ici à Culture Monde, et celui de l'explosion potentielle de la dette italienne. Depuis des années, écrit ainsi l'économiste britannique Jim O'Neill, le monde de la finance se demande quand l'Italie va faire défaut. Mais les Italiens sont toujours parvenus à trouver toujours encore de nouveaux prêts pour rembourser les intérêts d'une dette dont rien ne semblait pouvoir arrêter l'accroissement. En réalité, les problèmes de l'Italie préexistaient même à son adhésion à la monnaie unique. Sa productivité était faible selon des standards européens. Le pays connaissait des crises cycliques auxquelles il réagissait en dévaluant régulièrement sa monnaie. Avec l'euro, ce genre de défausse n'est plus possible. Aujourd'hui, certains Italiens regrettent ces temps bénis de facilité monétaire, mais ils ne réalisent pas que c'est grâce à l'euro que l'Italie jouit aujourd'hui d'une inflation faible et de taux d'intérêt très bas. Alors la coalition des populistes de droite, Liga, et des populistes de gauche, 5 étoiles, actuellement au pouvoir, applique une politique absurde, consistant d'un côté à baisser les impôts et de l'autre à mettre en œuvre une politique de revenu universel très coûteuse. Ils sont non seulement en train de gâcher les chances de leur pays de poursuivre les réformes qui auraient pu rétablir sa productivité, mais en outre, ils menacent notre monnaie commune. La Commission a laissé le déficit de certains États, dont le nôtre d'ailleurs, dépasser le fameux plafond des 3% parce que leur situation financière globale inspirait plutôt confiance. Eh bien, tel n'est pas le cas de l'Italie, qui est une bombe à retardement.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve demain, cher Brice. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.